cinquième dimension. Une pièce radiophonique d'après un roman de Marcel G. Prêtre, adapté pour la radio par Pierre Bassoli. Aujourd'hui, quatrième et dernière partie, le châtelain de la Ravachière. Avec Gilbert Rigotti, Marco Poli, Philippe Lecher, Eric Ashton-Lomax, Sébastien Deron, Gilbert Combépine, Aurélie Renier, Raoul Hiersin, Pierre Bassoli, Bernard Bachton et Olivier Bravant. Mise en onde, prise de son et montage, Pierre Bassoli.
Et vous, cher monsieur, n'auriez-vous pas, vous aussi, une histoire étrange à nous raconter ?
Oui. Vous avez écouté chacun de nous attentivement, avec un petit sourire, comme si vous pensiez « Attendez, mes amis, que je vous conte mon histoire. »
Effectivement. Je sais également une affaire qui trouverait fort bien sa place dans la cinquième dimension.
Allez-y, cher ami, nous sommes impatients de la connaître.
Avant tout, permettez quelques minutes durant que je prenne la place de mon héros. Il faisait un vrai temps de Noël, sombre, froid. Un froid mordant qui pinçait aux oreilles et vous gerçait les lèvres. Je remontais vers Paris. Ma radio de bord marchait en sourdine, diffusant une musique douce. Soudain, la voix de l'animateur succéda au slow. Je me penchai brusquement en avant pour augmenter le volume sonore, car on venait de citer mon nom.
Nous diffusons maintenant en différé l'émission La Vérité, consacrée à l'écrivain François Verrières.
C'était une séquence que j'avais enregistrée 2 semaines auparavant et qui ne devait être programmée qu'après les fêtes. Une émission où le meneur de jeu vous pose une série de questions ayant trait tant à votre activité professionnelle qu'à votre vie privée.
Qui êtes-vous, François Verrières ?
Un bourgeois. Fils de bourgeois qui a choisi d'écrire.
Pourquoi ?
Parce que j'aurais aimé être peintre.
Là, j'avoue que...
Vous ne comprenez pas ? C'est pourtant simple. Écrire, c'est traduire des formes, des couleurs. Avec en plus toute une suite d'investigations dans la psychologie de vos personnages. Une interprétation de leurs sentiments. Un peu ce qu'on cherchait à rendre les surréalistes au début du siècle.
Où habitez-vous ?
À Paris, dans le 16e. J'ai la chance d'avoir hérité de ma famille un petit hôtel particulier.
Êtes-vous marié ?
Oui.
Des enfants ?
Non.
Les journalistes spécialisés s'accordent à vous considérer un peu comme un ours. Que pensez-vous de ce jugement ?
Si vouloir vivre à la campagne, chasser, pêcher, aimer ses chiens et ses chevaux, fuir comme la peste les cocktails mondains et les interviews, c'est être un ours, alors je le suis.
Je cessais d'écouter un instant et cherchais à connaître la raison du nouveau ralentissement de la circulation. J'étais contrarié. Je voulais faire une surprise à Nathalie. Nous étions convenus de nous appeler à minuit pour nous souhaiter un joyeux Noël. Normalement, je n'aurais jamais dû avoir terminé ce roman à temps. Il me fallait le remettre impérativement à mon éditeur le 26. Et puis, sans pouvoir me l'expliquer, cela avait marché très fort durant plusieurs nuits et j'avais pu taper le mot « fin » 2 heures avant de prendre la route. Rien ne me retenait plus hors de Paris. Je prêtais à nouveau attention à l'émission et retrouvais le fil de l'interview.
Votre dernier roman ?
Il est en cours.
Êtes-vous superstitieux ?
Non.
Tant mieux. Vous ne verrez donc aucun inconvénient à nous en déflorer le sujet.
Non. C'est l'histoire d'un homme qui aime passionnément une femme et qui, jour après jour, la sent se détacher de lui. Un soir, il rentre à l'improviste et découvre qu'il est trompé. Voilà. Jusque-là, rien de très original.
Ensuite ?
Tout l'intérêt de ce livre, du moins pour moi, réside dans la réaction que mon héros a devant son infortune.
Il tue ?
Non.
Il pardonne ?
Non.
Alors quoi ?
Il part seul, dans sa nuit.
Quand je me suis rangé dans la cour,
J'ai levé les yeux vers la façade de mon hôtel particulier et j'ai eu soudain très froid. Nulle lumière ne filtrait aux fenêtres et j'ai tenté vainement d'en apercevoir dans la loge des gardiens. Je me suis avancé jusqu'au perron. J'ai gravi les marches et ouvert la porte. Mes pas résonnaient sur les dalles. Pour quelle raison n'ai-je pas allumé? Tout à coup, j'ai réalisé pourquoi je frissonnais. Nathalie. En un éclair, je me l'imaginais pantelante en travers du lit, un tube de barbiturique vide à son chevet. Nathalie seule un soir de Noël. Nathalie qui m'avait fait un début de dépression nerveuse 2 mois auparavant. Nathalie désespérée y décidant d'en finir. Je gravis les marches 4 à 4 et me ruais sur le palier. La moquette étouffait le bruit de mes pas. Je poussai une porte, franchis mon bureau en trombe et atteignis notre chambre. J'ouvris le battant et la vis. Elle était bien à travers du lit, pantelante. Je restai figé, incapable de faire un geste, avec la sensation d'être retenu au sol par une gueuse de plomb. Ce n'était pas le véronal qui l'avait fait défaillir, mais le plaisir. Elle était nue, cherchant dans un geste de pudeur à masquer son corps, tandis que son partenaire, une serviette autour des reins, semblait tout aussi figé que moi dans l'encadrement de la porte de la salle de bain. Il ne m'était pas inconnu, loin de là. Pierre Franière, un ami de 15 ans. Brusquement, je sus que je devais réagir, mais je n'étais plus moi-même. Je me retrouvais à la place du héros que je venais de créer. Je n'avais plus qu'à me souvenir de mon texte. J'agis en tout point comme mon héros. Pris de l'argent dans mon coffre et sans même me changer, j'avais quitté Paris en direction de Dijon. Pourquoi Dijon? Parce que mon personnage fuyait la France. L'itinéraire m'était connu. Sorti de Dijon, National 74 en direction de Mâcon, afin de retrouver la route de Genève. Je roulais, roulais. La neige s'était mise à tomber. Le visage de Nathalie m'apparut dans le pare-brise tel que je l'avais vu à la fenêtre en démarrant. Brusquement, j'en vins à souhaiter l'arrivée impromptue d'un véhicule en sens inverse. Un gros de préférence, un de ces 10 tonnes aux mufles menaçants, suivi d'une remorque de même poids. Je l'appelai à mon secours de toutes mes forces. Être soudain délivré, ne plus souffrir, ne plus penser. Être léger, aérien et quitter la terre comme un de ces flocons balayés par le vent. Ce ne devait pas être mon heure car rien ne vint. La pluie succéda bientôt à la neige. Elle inondait mes vitres. J'avais l'impression qu'elle entendait aussi laver, balayer sous son flot la moiteur dans laquelle je baignais depuis ma fuite. Car j'avais fui. J'étais parti sans même parvenir à articuler un mot. Peu à peu, je redevenais moi-même. Un sourire amer s'étalait sur mes lèvres. J'étais un mari trompé, un cocu comme il en existe des milliers. Le cocu de Noël, quel titre! Était-ce à dire que la chance tournait? Car j'avais eu en son temps quelques bonnes fortunes aux dépens de mari aveugle ou inconscient. La pluie semblait avoir réchauffé le sol, et par de petits coups de volant, je sus qu'il n'y avait plus de verglas. Mon pied se faisait plus pesant sur l'accélérateur. La vitesse me grisa durant quelques instants. Le ronflement du moteur couvrait la musique. Je savais que je devais rétrograder. La route luisante de pluie était glissante, et si j'avais à freiner, pourtant je n'en fis rien. Le risque encouru m'exaltait. C'était Nathalie, son amant. Mes rêves que j'écrasais d'un pied lourd. Je dévorais la route parfaitement rectiligne. Nathalie était toujours omniprésente sur mon pare-brise. Nathalie, mon bonheur. Cela n'avait duré que 3 ans, jusqu'à ce qu'elle apprenne par le médecin qui la suivait qu'elle devait renoncer à tout espoir de maternité.
Se pouvait-il que cette frustration ait été la cause de notre échec conjugal ? De déçu, je devins jaloux. Combien avait-elle eu d'amants ? Je connaissais Franière, mais les autres. Et puis pourquoi lui ? Parce qu'il était mon meilleur ami ? Un voile se déchira brusquement. La présence de Franière chez moi à dîner toutes les semaines, à la chasse en saison, à Cannes l'été, cette assiduité dans l'amitié, tout cela n'était donc que calcul. Subitement, je vis rouge. Une vague de haine me submergea. Jamais je n'aurais cru qu'elle puisse avoir la couleur du sang. Je voyais rouge, tout rouge. Une flaque rouge inondait mon pare-brise. Cette couleur m'excitait comme un taureau de combat. C'était étrange. Ma haine clignotait maintenant. Soudain, je vis une masse sombre ceinturée de blanc s'agiter devant mes yeux.
Police nationale, dites donc, vous, on ne peut pas dire que vous prenez de la marge quand vous freinez. Hein. Si c'était pas Noël, vous n'y coupiez pas. Hein. Excès de vitesse et tout le toutim. 2 mètres de plus et vous brouillez le barrage. Alors comme ça, on est pressé ?
Oui.
Où allez-vous ?
Genève. Qu'est-ce qui se passe ici ?
Un gars qui roulait un peu vite a bouffé un 10 tonnes. Un tête à queue. Bon, suivez l'itinéraire fléché et vous retrouverez la 74. Allez-y doucement, hein, la dérivation est mauvaise.
Il y a eu des blessés dans l'accident ?
Non, mais un mort. Allez, bonne route, monsieur. Et à l'avenir, ralentissez devant les barrages.
Tiens, une bifurcation. Ah, il n'y a pas de panneau indicateur. J'avais le choix, la route de gauche ou celle de droite. Logiquement, j'aurais dû m'engager sur la gauche, faute de nouvelles indications. Ce fut plus fort que moi. Un besoin irraisonné de liberté m'inclinait à choisir la route de droite. C'était une façon comme une autre de tester mon indépendance soudain recouvrée. Je braquais et démarrais. Au bout d'un certain temps, je me rendis compte au tremblement de mon volant que j'avais quitté le goudron. J'étais maintenant sur un chemin de terre. Des ornières, des trous. Mes amortisseurs gémirent. Mon châssis parut se tordre. J'avais la preuve que je n'étais pas dans la bonne direction. Je patinais. J'engageais la marche arrière, mais les roues entraînées par la puissance du moteur ne firent que creuser davantage le sol bourbeux. Chaque tour de roue me rapprochait de l'irrémédiable. L'immobilisation. Ma voiture reposant sur le ventre, châssis enfoui en pleine neige. Je coupai le contact et descendis sur le chemin à la recherche de quelques branches de façon à les mettre sous les roues. Et c'est alors que je l'aperçus. Il était assis sur le faîte du muret. Surpris, je m'écartai. Mes phares l'illuminèrent. Il portait un costume de velours détrempé de coupe surannée. Je crus rêver, être victime de mon imagination. Ce personnage d'un autre siècle, descendu tout droit d'une imagerie populaire, avait un fusil de chasse anachronique en travers des genoux. Je fermai les yeux, les rouvris et distinguai de la fumée et le rougeoiement d'un fourneau de pipe. Mon cœur cessa de marteler ma poitrine, retrouva son rythme normal, en même temps que l'espoir de sortir de ce bourbier prenait corps. Je m'approchai de l'inconnu. Comme mu par un ressort, il sauta à terre. Il était de haute taille, avait un port de tête altier, une moustache blanche et était coiffé d'un béret de velours incliné sur l'oreille jusqu'à la naissance des longs favoris qui lui descendaient à mi-joue. L'aspect de sa peau m'étonna. Elle était presque translucide, tendue tel un parchemin sur son visage osseux.
Alors, grand-père, On braconne le soir de Noël ?
Compte au démarre de Haute-Rive, pour vous servir, monsieur.
François Verrières, écrivain. Excusez-moi de vous avoir appelé grand-père.
Aucune importance. Puis-je vous demander ce que vous cherchez par ces lieux, monsieur ?
Dans un premier temps, des branches, un madrier, n'importe quoi à placer sous mes roues.
Et ensuite ?
Le moyen de retrouver la Nationale 74.
Ça, monsieur...
Est-ce donc si difficile ?
En ces temps où la machine est reine, il arrive parfois qu'elle doive céder le pas devant la force des éléments. C'est l'extraordinaire revanche de la nature. L'homme va dans le cosmos, mais est impuissant à juguler un typhon.
Tout de même, une branche ?
Rien n'est à même de faire votre affaire, à moins d'arracher un cep, ce qui serait sacrilège et indigne d'un homme d'honneur. Quant à rejoindre cette route affublée d'un numéro barbare, il n'en est point question, du moins en véhicule. Il fut un temps où votre route n'était pas nationale, mais voie royale. Elle ne portait pas de numéro, et quand on évoquait le carrefour qui vous intéresse, on parlait du moulin de Diane.
Mais il doit être possible, cher monsieur, de trouver de l'aide chez les paysans du coin.
N'en croyez rien. Perdez vos illusions. Il n'y a aucun garage à plusieurs lieues à la ronde. Quant aux manants qui gîtent dans les fermes, ce sont des croquants que je vous défie de sortir de leur soupente à pareille heure, à l'époque où nous vivons. Le mieux que vous ayez à faire, c'est d'accepter mon hospitalité. Au jour, nous aviserons. À moins que vous ne préfériez dormir dans votre voiture.
Grand Dieu, non.
Alors venez. Vous n'êtes pas attendu au moins, monsieur Verrières.
Pas du tout. Je suis libre et sans attache.
Soyez le bienvenu, monsieur Verrières. Considérez cette maison comme la vôtre et fasse le ciel que vous y trouviez la paix.
Était-ce sa façon de parler ? Ce diable d'homme avait-il un don de prescience ? Il avait allumé un chandelier avec un soin méticuleux et quitta la pièce. Je m'assis dans un fauteuil et me sentis tout à coup observé. Levant vivement la tête, j'entrevis au centre de la galerie en balcon qui courait tout autour de la grande salle une forme blanche, élancée, penchée au-dessus de la balustrade. L'apparition ne dura que quelques dixièmes de seconde et s'évanouit dans l'ombre. Je frissonnais et fus soulagé en entendant mon hôte revenir.
Voici de quoi nous sustenter, monsieur Verrières. Un poulet froid, des fromages de chèvre et quelques pommes de terre.
Trop aimable, monsieur le comte. À la fin de cet étrange et silencieux souper, Haute-Rive prit un bougeoir, l'alluma au candélabre et m'invita à le suivre. À cet instant, je sus que je devais à tout prix rompre cette sorte d'envoûtement. Remercier, partir, fuir cette maison comme j'avais fui la mienne. Je devais partir. La main de mon hôte eut un petit geste impératif. Il émanait de lui une telle autorité que je ne pus, malgré moi, faire autrement que de me suivre.
Voici votre chambre, monsieur Verrières. J'espère que vous passerez une bonne nuit.
Ce qu'il en reste, monsieur le comte. Le jour va bientôt se lever.
Dormez bien.
Un jour triste, blafard, se levait lentement sous un ciel morne, plombé tout en grisaille. Allongé sur le lit, je me mis à suivre des yeux les dessins gracieux du baldaquin. Il y avait un visage qui s'y imprimait comme en transparence. Un visage de femme, d'un ovale parfait, aux traits si purs que je clignais des yeux pour n'en omettre aucun détail. Peu à peu, je la vis sourire, sourire, sourire. Je rouvris les yeux, incapable de savoir combien de temps je m'étais assoupi. faisait grand jour. On galopait sous mes fenêtres. Je bondis vers la baie, juste à temps pour voir disparaître un gris pommelé monté en Amazone par une cavalière dont les longs cheveux blonds flottaient librement au vent de la course. Il n'en fallut pas plus pour que Nathalie ressurgisse du néant où je l'avais enfouie. Avec elle, je revis en film les heures écoulées, ma rencontre avec Haute-Rive, notre étrange souper et la mort que j'avais souhaitée un instant par l'intermédiaire d'un Ditton et qui avait frappé un autre homme. Le lendemain matin, une servante me conduisit jusqu'à la bibliothèque où m'attendait le comte.
Bien dormi, monsieur Verrières ?
Comme un plomb, et je vous prie de m'en excuser. J'abuse de votre hospitalité.
Absolument pas, Verrières. Ça ne vous ennuie pas que nous éliminions entre nous ces « monsieur » qui ne sont plus de mise ?
Pas le moins du monde, bien au contraire.
Je pense qu'un café vous ferait le plus grand bien, à moins que vous ne préfériez du thé.
Café noir, puisque vous me le proposez.
Parlons tout de suite de votre voiture. Je pense que c'est là votre principal souci. Ça dégèle en ce moment, les chemins sont des fleuves de boue. Vous auriez tout intérêt à la laisser où elle est. Je puis vous garantir qu'elle ne risque rien. Et en temps voulu, nous ferons le nécessaire. Faites-moi donc l'amitié de rester mon invité dans l'intervalle. Je ne suis qu'un vieux loup, un peu trop solitaire.
Haute-Rive, je crois que nous avons un point commun. On dit que je suis un ours.
On dit toujours cela de ceux qui refusent de s'intégrer à un monde qui court irrémédiablement à sa perte. La politique de l'escargot, voilà ce qui nous reste. Je suis, vous êtes un escargot. Vous sortez de votre coquille pour les besoins vitaux et vous y rentrez aussitôt dès que vous décelez l'adversaire. J'espère que ce repas vous convient. Il est un peu moins frugal que celui que nous avons pris cette nuit.
C'est parfait, Haute-Rive. Je me délecte. Et vos vins ?
Ah oui, je suis assez content de ce Romané Conti 1929 et du Chambol Musigny 1928. Dites-moi, cher ami, vous plairait-il d'aller tirer quelques perdreaux demain matin ?
Absolument, j'en serais ravi.
Dans ces conditions, nous partirons au lever du jour. Vous montez, n'est-ce pas ?
Exact. Mais je n'ai ni bottes, ni culottes.
Qu'à cela ne tienne. Anselme vous apportera demain matin les équipements nécessaires. Si les bottes sont un peu justes, vous en serez quitte pour monter en houzeau. Quant au cheval, vous montrez flamboyant, un bébrin, une bête de sang, un cheval de tête. Vous serez heureux de le chevaucher et lui, de vous sentir sur son dos. Ça fait des années qu'il n'a plus connu de vrai maître.
Je brûlais d'en savoir la raison. Pourquoi dans cette maison où l'on galopait dans le parc, personne ne montait cet animal ? À la façon dont mon hôte me regarda, je sus que je ne devais pas poser de questions. Il devait en être de flamboyant comme de la mystérieuse Amazone. Soudain, je n'eus plus envie de partir, mais de rester, d'en apprendre davantage et, qui sait, de rencontrer cette cavalière à la chevelure blonde dont la vision m'obsédait.
Ça suffit pour aujourd'hui. Anselme, rentrez avec les chiens et les armes. Monsieur Verrières et moi, nous allons faire un tour au bois roux. Félicitations, Verrières. Vous avez la main douce. Mieux, une bonne main. Flamboyant a toujours aimé se sentir épaulé, conduit, commandé. Il a été manégé par un homme qui aimait passionnément les chevaux, monsieur Verrières. Un homme qui aurait aujourd'hui votre âge et... pardonnez-moi... votre genre. Flamboyant reconnaît le cuir de ses bottes et sans doute sa façon de monter. Où avez-vous appris l'équitation, Verrières ?
À Saumur. Pourquoi ?
Lui aussi. Vous êtes officier de réserve ?
Oui, capitaine, très exactement.
Il était aussi capitaine, mais d'active.
Était. Aurais-je donc chaussé les bottes d'un mort ? Il me semble que Flamboyant a envie de faire un petit canter. Allez, flamboyant.
J'aime votre façon de monter, Verrières. Bravo. Voyez-vous, là-bas, c'est le Boiroux. Il y a une source. Votre cheval, d'ici là, sera en état de s'abreuver.
Depuis combien de temps habitez-vous le château ?
J'y suis né. Il a été le témoin de mes premières joies et de toutes mes peines. C'est là que j'ai reçu ma première correction. Que je me suis fiancé, marié et suis devenu veuf. Cela n'a duré que 10 mois.
Excusez-moi, je suis confus.
Vous ne pouviez pas savoir. Ma femme est morte en couche. Elle m'a laissé un fils. Nous l'avons prénommé François. C'est lui qui a dressé Flamboyant. Il s'est marié au château, lui aussi, 1 mois avant de partir prendre le commandement d'un escadron en Indochine. Et puis un soir, la radio nous a annoncé que son escadron n'était plus. Il nous a fallu attendre l'arrêt des combats pour savoir qu'il ne reviendrait pas. Voilà, maintenant vous savez tout. Dès que je vous ai vu, j'ai été frappé par votre ressemblance. Même taille, même allure, avec les années en plus. J'ai voulu m'offrir une ultime joie, vous voir galoper sur Flamboyant avec ses bottes et sa sellerie. Dites-moi que vous ne m'en voulez pas. Ah, voici notre invité. Mon cher Verrières, je vous présente ma belle-fille, Isabelle.
Ainsi, mon Amazone et la forme blanche entrevue la nuit de mon arrivée n'étaient qu'une seule et même personne. Isabelle de Haute-Rive. Elle était encore plus belle que je me l'étais imaginée, en la voyant galoper dans le parc. Une beauté altière, avec une étrange douceur dans le regard et de grands yeux clairs nimbés de mélancolie. Elle me sourit, et j'éprouvais un choc, le baldaquin. Ce visage que j'ai vu tisser sur le baldaquin, avec ce sourire, ces mêmes lèvres. C'était donc par la grâce d'Isabelle que j'avais trouvé la paix de l'âme et l'oubli la nuit de mon arrivée. Était-il possible que ce qui n'avait été qu'une coïncidence devienne une réalité quotidienne ? Inconsciemment, je me sentais devenir François de Haute-Rive. À en juger par l'expression de mon hôte ce matin, en me voyant monter Flamboyant, l'illusion était parfaite. Elle devait l'être aussi pour Isabelle. Avais-je le droit de poursuivre un jeu aussi diabolique ? Je ne savais que faire. Rompre brutalement le charme, c'était peiner mes hôtes. Continuer sciemment à faire revivre un mort, faute d'avoir un présent à quoi se raccrocher, n'était-ce pas un peu lâche ? Le repas fut servi, somptueux comme d'habitude, et nous mangeâmes dans un silence quasi religieux.
Voulez-vous que nous montions ensemble demain matin, monsieur Verrières ? À moins que vous ne me jugiez pas assez bonne cavalière pour m'accompagner.
Vous me prêtez des pensées qui ne sont pas les miennes, mademoiselle Haute-Rive. Je vous ai vu monter et vous me semblez être une cavalière remarquable. Cependant, mes obligations m'appellent à Paris et je...
Pourtant, vous m'avez dit que vous n'étiez pas attendu, que vous n'aviez pas d'attache.
C'est vrai, vous avez raison. Et puis, on se sent si bien chez vous. Je suis à vos ordres, Isabelle.
Alors à demain, François.
Fatiguée ?
Un peu.
Voulez-vous vous reposer un moment avant de repartir ?
Volontiers.
Allons jusqu'à la cabane du forestier. Tenez, installez-vous là, sur la paille.
Savez-vous qu'après-demain, nous allons rentrer dans une nouvelle année ?
C'est vrai. Les jours se sont écoulés sans que je m'en rende compte. Mais est-ce que cela a tellement d'importance ?
Oui.
Pourquoi ?
À cause des vœux. Non pas ce que l'on formule par politesse, mais ce que l'on se souhaite ou que l'on souhaite ardemment à quelqu'un qui vous est cher.
Isabelle, si vous aviez maintenant à émettre un vœu, un seul, et que par un sortilège, un merveilleux sortilège, vous ayez la certitude qu'il soit accompli, que serait-il ?
Vivre des années comme ces derniers jours. Et vous ?
Moi aussi, Isabelle.
François, embrassez-moi.
Soudain, il n'y eut plus rien, hormis nous deux. Ses lèvres avaient la douceur d'un fruit mûr. Je sentais la chaleur de son corps contre le mien. Le soleil jouait sur nos têtes. J'enfouissais mon visage dans la masse soyeuse de ses cheveux blonds. Je la respirais, parcourue d'un désir violent, nuancé d'une infinie tendresse. J'avais la certitude d'émerger enfin de mon néant, d'avoir redécouvert un sens à la vie.
C'est flamboyant. Il va botter ma jument, François.
Je vais voir. Le charme était rompu. J'avais à peine franchi le seuil de la cabane qu'Isabelle me rejoignit après avoir remis de l'ordre dans ses cheveux et ôté la paille de sa redingote. J'ai attendu la fin du dîner avec l'impatience d'un jouvenceau. Contrairement à son habitude, Autrive alluma une troisième pipe. Avait-il deviné que j'espérais poursuivre en tête-à-tête avec Isabelle un entretien qu'un flamboyant avait malencontreusement interrompu ? Mon hôte, fort disert, s'était lancé dans un long monologue sur l'avenir de la paysannerie française. Nous ne l'écoutions que d'une oreille, Isabelle et moi, nous lançant des regards tendres et pleins de promesses. La diatribe du comte dura encore une dizaine de minutes, puis brusquement, il se leva et se dirigea vers l'escalier.
« Je vous souhaite la bonne nuit, François. Ne vous dérangez pas. Isabelle, resservez-lui un mare. »
Le vent se lève au bois roux. « Oh, François, gardez-moi, François. Ne me laissez pas partir. »
Isabelle était maintenant blottie dans mes bras. Je respirais l'odeur de ses cheveux, de sa nuque. J'étais décidé à ne plus la quitter. Elle leva la tête. Nos yeux se rencontrèrent. Je lus dans les siens la tendresse d'un abandon déjà consenti. J'étais ému. Tremblais presque comme un collégien à son premier rendez-vous d'amour. Lorsque nos bouches se désunirent, je me levai, pris le lourd chandelier, et comme s'il se fût agi d'une chose naturelle, comme si j'étais effectivement François de Haute-Rive, je guidais Isabelle vers le grand escalier.
Chut ! Je dois saluer mon beau-père.
Bonne nuit, père !
Je vais vous garder, Isabelle, maintenant et toujours.
Oh, François !
Mais je dois d'abord rentrer dans ma chambre. Regagnez la vôtre et si vous voulez toujours de ma présence, je viendrai vous y rejoindre. Isabelle se tenait debout près de la haute fenêtre. Le souffle court. Je parvins à poser sur un coffre ouvragé le bougeoir qui tremblait dans ma main. Blonde, vêtue de blanc, elle évoquait une fille. Elle portait un déshabillé à très large col de dentelle. Était-il possible que cette silhouette de rêve soit réalité et que cette femme puisse être à moi dans quelques instants? J'approchai et elle me tendit les bras. Puis il n'y eut plus rien. Je n'entendais plus le vent. Il n'y avait plus qu'elle. Elle était là, dans mes bras. Je m'enivrais de son odeur, de la douceur de ses cheveux. Son corps se plaqua plus étroitement contre le mien. Je resserrai mon étreinte d'un bras autour de sa taille. Mes mains couraient sur son corps. Les lèvres d'Isabelle avaient la fraîcheur d'une source en été. Et je m'y désaltérais à en perdre haleine lorsqu'une rafale de vent plus violente que les autres ouvrit brusquement la fenêtre. Le flambeau et le bougeoir s'éteignirent immédiatement et Isabelle disparut au même instant, comme emportée par la bourrasque. J'étais subitement comme fou. Isabelle ! Isabelle ! Isabelle, réponds-moi ! Pendant combien de secondes, combien d'heures ai-je cherché ? Le silence, le noir, le froid. Plus aucun son ne pouvait sortir de mes lèvres. Je tremblais. J'avançais encore. Je tâtais. Je sentis enfin quelque chose de lisse, de froid. Mes doigts coururent sur sa surface. J'éclatai d'un rire démentiel en reconnaissant le volant de ma voiture. J'étais bien vivant, les yeux ouverts, dans ma Ferrari. Le jour qui s'était levé avait cette tristesse, cette grisaille des matins d'hiver. Pour la première fois, je comprenais ce qui pouvait pousser un chien à hurler à la mort. Moralement, je hurlais. Était-il possible que je n'aie fait qu'un rêve? J'avais à peine formulé ma question que j'en ressentis le ridicule. Nathalie était blonde, Isabelle était blonde. Nathalie m'avait en quelque sorte fui. Isabelle avait disparu. La fatigue aidant, je n'avais fait que transposer. La magie onirique avait fait le reste. Ce n'était pas Isabelle, mais Nathalie que j'aimais, que je n'avais jamais cessé de désirer. Un coup d'œil à ma montre me confirma la date, 25 décembre. J'étais pleinement conscient de mon ridicule lorsque j'entendis un bruit de moteur. Je tendis l'oreille. Le bruit se rapprochait. Cette fois, c'était bien réel. J'en eus bientôt la preuve en voyant grandir dans mon pare-brise l'image d'une dépanneuse qui arrivait à reculons.
J'ai failli pas vous voir, dame, avec cette vacherie de brouillasse, pas vrai? Si je suis là, c'est rapport au coup de téléphone. On m'a dit qu'un étranger s'était foutu sur le ventre dans cette merde. Bon, c'est pas tout ça, mais on n'est pas là pour rigoler, hein? Alors, question de vous sortir de là, c'est d'accord, mais c'est 150 francs, vu que c'est Noël et que je préfère être dans mon lit à cette heure.
C'est d'accord.
D'avance, hein, parce que moi, des Parisiens en Ferrari par ces temps, j'ai pas confiance.
Tenez, voilà, vous faites pas de soucis. Et vous allez me tirer avec cette chaîne? Pourquoi ne pas utiliser votre treuil et me soulever par l'avant?
Marche pas. L'attache du crochet est foirée. Bon, allez vous mettre au volant. Vous m'aiderez en jouant de l'embrayage. Mais doucement, hein. N'emballez pas le moteur.
Le garagiste accéléra. La chaîne se tendit et je sentis que je sortais de l'ornière. Nous avons parcouru une centaine de mètres dans un fleuve de boue. Soudain, sans pouvoir me l'expliquer, peut-être parce que confusément j'avais besoin de me prouver que j'avais rêvé, je détournai le regard vers l'endroit où j'avais vu le comte de Hauterie. C'est alors que je l'aperçus de nouveau. Il était là, assis sur le faîte du petit mur, vêtu de son costume de velours, son fusil de chasse en travers des genoux. Je n'avais donc pas rêvé. S'il existait, Isabelle existait également.
Hé hey, oh ! Stop ! Arrêtez-vous ! Merde, il ne m'entend pas. Hé hey, Hauterive ! Hauterive ! Mais arrêtez-vous ! Stop ! Stop ! Isabelle ! Isabelle ! Il n'y a rien à faire. Personne ne m'entend. Mais il va s'arrêter, ce garagiste. Imbécile ! crétin.
Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas de m'insulter? Je vous ai sorti de votre merdier.
Je m'en fous, j'ai perdu Isabelle. Allez, enlevez-moi cette chaîne.
Bah merde alors. Mais qu'est-ce qui lui prend?
Pied au plancher, je remontais mes traces. Les flaques de boue me guidaient. Cette fois, j'étais pleinement conscient. Isabelle existait puisque j'avais revu le comte de Haute-Rive. Je suivais ma boue comme un fil d'Ariane. Soudain, mes traces bifurquèrent. Frein, coup de volant à gauche. Je coupais la route. J'avais l'impression de marcher vers le soleil. Un soleil éclatant, miroitant comme le pare-brise du 10 tonnes lancé à vive allure qui venait vers moi. J'écrasais la pédale de frein. Mes roues encore pleines de boue glissèrent sur la chaussée. Il y eut devant mes yeux 1000 soleils. Tout se fondit en un éclatant tintamarre, puis ce fut un grand calme. Une saveur fade, tiède, emplit ma bouche. J'étais oppressé. Le goût du sang se faisait plus tenace. Un voile de brume nimba mes yeux, tandis que mes oreilles résonnaient une douce musique. Je sus que j'avais gagné, que j'étais au bout de ma peine. Isabelle venait vers moi. Isabelle me tendait les bras. Je respirais à nouveau l'odeur d'Isabelle. Elle disait
« Ne me laissez plus partir !»
Sa voix était douce à mon cœur. J'ouvris les bras. Elle s'y blottit et je sentis sous mes doigts la merveilleuse douceur de ses longs cheveux d'or. Quand je me suis arrêté sur les lieux de l'accident, les CRS découpaient les tôles au chalumeau. Le conducteur du poids lourd, effondré sur le bord de la route, répondait entre deux sanglots aux questions des motards de la gendarmerie.
Ouais, c'est encore un de ces mecs qui croient que rouler en Ferrari, ça leur donne le droit d'emmerder la terre. Cette nuit, à la dérivation, il a déjà failli m'emboutir. C'est étrange, avant de mourir, il a empoigné une touffe de crin. Et ce crin, il a la couleur des cheveux de la poupée que j'offre à ma fille Isabelle. Quand même con de crever un jour de Noël.
Il n'y avait plus de flammes sous la hotte. Personne n'éprouvait le besoin de parler. Ce silence que personne n'osait rompre, c'était encore la cinquième dimension. Mais cette fois, elle avait des noms, des visages pour la concrétiser. Nicobson, la bouteille, Isabelle de Haute-Rive rejoignaient le petit Albert à la flûte d'or.
Messieurs, j'entends venir votre voiture. Inutile de la laisser entrer dans l'allée, sans quoi cela va créer un bourbier.
Vous avez parfaitement raison. Et puis il convient que nous nous réaccoutumions à la température extérieure avant de nous retrouver au vent dans la Jeep. Mille merci pour votre hospitalité.
De rien, messieurs. Au revoir.
Eh bien, Pierre, vous avez mis un temps fou pour revenir de chez Rupeau.
Foi de l'alem, monsieur Johnson. J'ai pas mis une heure pour faire l'aller-retour, vu que le gros Claude, l'épicier de Tigy, m'a ramassé en route et c'est dans sa camionnette que j'ai rejoint le château.
Mais quelle heure est-il? Ah, c'est exact, il est à peine 20h30. Comme c'est curieux.
Foi de malais, j'ai fait au plus vite.
Pierre!
Oui, monsieur.
Madame Janssen vient de me faire remarquer une chose. Hier soir, nous avons été aimablement reçus à la rabâchière et le moins que nous puissions faire serait de convier notre hôte à déjeuner.
Oui, monsieur.
Vous avez sans doute raison.
Alors vous allez prendre la Jeep et vous irez porter ce mot au manoir de la Rabachière.
Au manoir de la...
De la Rabachière, oui, parfaitement. Ne faites pas cette tête-là. Fini les sornettes et les superstitions de village. Le manoir a bel et bien été racheté et restauré.
Je vous assure, Monsieur Janssen, que...
Écoutez, Pierre, hier soir, en vous attendant, nous avons bu au manoir de la Rabachière une de ces fines champagnes qui ne dépareraient pas la cave de Chérupeau. N'ayez pas peur comme tous les autres.
Bien, monsieur, j'y vais.
Eh bien, Pierre, pourquoi transformer cette neige en boue ?
Sir Janssen, faut pas se moquer d'un chrétien le jour de Noël. Je le dis respectueusement, mais je le dis quand même.
Mais Pierre, que se passe-t-il ? Vous avez remis ma lettre ?
À qui, grand Dieu ? Non, monsieur, parce que le manoir, c'est toujours la solitude, et plus que jamais, Rabachière ou pas. Je dis pas que la fine champagne, vous l'avez pas bu. Mais je dis que c'est sûrement pas là-bas, monsieur. Foi de nalais.
Mais c'est impossible. Je veux en avoir le cœur net.
Lorsque Janssen arriva, la porte du manoir était entrebâillée. D'immenses toiles d'araignées où perlaient des gouttes de rosée en obstruaient le passage. La lanterne au-dessus était rouillée. Sven Janssen se sentit brusquement ému. À cet instant, il savait que Pierre avait dit la vérité. Mais alors, tout le reste...
Au fond, n'est-ce pas un peu cela, la cinquième dimension ? Et la statue du petit Albert ? Il faut que je voie. L'escalier à ma droite, s'il s'y trouve, c'est que je l'ai vraiment vu.
L'escalier était là, majestueux, montant vers la galerie formant loggia. Il n'y manquait plus que la haute silhouette du châtelain de la Rabachière en smoking bleu nuit. Sven Janssen ferma les yeux, cherchant dans sa nuit à retrouver le visage d'Isabelle tel qu'il l'avait imaginé. Lorsqu'il les rouvrit, c'était le petit Albert à la flûte d'or qui, dans sa pierre, lui souriait. C'est alors qu'il aperçut sur le dessus de la cheminée le bloc d'écume de mer jaunie avec son ambre blond. Les serres de l'aigle semblaient étreindre encore plus fortement le fourneau de la pipe du châtelain de la Rabachière. Sven Janssen avança la main, se saisit de la pipe. Il posa son index sur le foyer, plongea dans le fourneau. Impossible. C'était encore tiède, comme si cette pipe avait été fumée quelques instants auparavant. Il soupira, resta un moment immobile, le regard absent, avant de reposer le bloc d'écume sur le dessus de la cheminée. Ce faisant, il fit tomber un petit objet de couleur vive qu'il enfouit dans sa poche, sans même le regarder.
Joyeux Noël, Monsieur Janssen.
Joyeux Noël, Léonce. Dites-moi, Léonce, savez-vous à qui appartenait le manoir de la Rabachière ?
Bien sûr, Monsieur Janssen. À un Parisien, un romancier. C'est lui qui a fait construire le manoir pour y travailler et venir chasser. J'ai même connu sa femme. Pour sûr que c'était une belle créature. Monsieur Verrières, c'était lui. Sans cette affaire, il aurait peut-être fini chez les Goncourt. Ou à l'académie.
Quelle affaire ?
Il s'est tué, Monsieur Janssen. Ça fait 20 ans. Et c'est drôle que vous me demandiez ça aujourd'hui. Parce que Monsieur Verrières, il s'est tué un matin de Noël avec sa Ferrari sur la route Mâcon-Genève. Bon, allez, joyeux Noël, Monsieur Janssen. Et bien des choses à votre madame.
Sven Janssen regarda Léon s'éloigner lentement, puis forcer le pas pour rejoindre les autres. Il savait maintenant où il avait vu le visage du châtelain de la Ravachière. Sur le point d'embrayer, il plongea la main dans sa poche pour examiner l'objet qu'il avait ramassé au pied de la cheminée. Il était jaune canari. C'était une voiture miniature, une Rolls-Royce 1910, à qui il ne manquait qu'une grand-mère à ombrelles. Une grand-mère en robe de dentelle blanche, souriante, qui savait si bien conduire, offrir des massepains, jouer en bourse et pronostiquer le gagnant du sweepstake.
C'était la cinquième dimension, une pièce radiophonique présentée par le Théâtre de l'Oreille, d'après un roman de Marcel G. Prêtre, adapté pour la radio par Pierre Bassoli. Aujourd'hui, quatrième et dernière partie, le châtelain de la Ravachière. Avec, dans le rôle de Sven Jansson, Gilbert Rigotti, Frédéric Barre, Marco Poli, Armand de Camard, Philippe Lécher, François Verrière, Eric Ashton-Lomax, l'animateur radio, Sébastien Deron, le policier, Pierre Bassoli, le comte Audemars de Haute-Rive, Gilbert Combépine, Isabelle de Haute-Rive, Aurélie Régnier, Pierre le garde-chasse, Raoul Yersin, le narrateur, Pierre Bassoli, le garagiste, Bernard Bachten, Léonce, Olivier Bravant. Mise en onde, prise de son et effets spéciaux, Pierre Bassoli.